Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition en partenariat avec la revue Questions internationales pour son numéro consacré aux États-Unis sous le titre « États-Unis cavalier seul ». Dans un an, l'élection présidentielle américaine renouvellera le mandat de l'actuel locataire de la Maison-Blanche ou au contraire consacrera une nouvelle personnalité. La campagne est déjà bien lancée en attendant les primaires qui commenceront en février 2020. Campagne bien lancée par un Donald Trump dont on sent bien des décisions prises en vue de satisfaire son électorat et des débats télévisés côté démocrate ou autres meetings tous azimuts qui font émerger ou réémerger des figures de la politique américaine. L'occasion de faire le point sur une actualité états-unienne particulièrement dense et comme rarement, entre la subite décision américaine de se retirer du nord-est de la Syrie et les conséquences tragiques sur le terrain, la procédure de destitution à l'encontre de Donald Trump lancée dans son état d'âme par Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants. Regard avec nos invités, Maya Kandel, chercheuse associée à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Bonjour.
Bonjour.
Pierre Mélandry, historien, ancien professeur des universités à Sciences Po Paris et auteur de Le siècle américain, une histoire aux éditions Perrin. Bonjour.
Bonjour.
Regard pour commencer sur les risques géopolitiques de la politique américaine d'aujourd'hui avec la confirmation que sous la présidence Trump, l'ordre international n'est plus garanti par la puissance américaine. Maya Kandel, vous parlez de spécificité du moment actuel pour la politique étrangère américaine, un tournant lié à la conjoncture de deux phénomènes, intérieur et international. Intérieur avec le fait que les classes moyennes et populaires ne soutiennent plus le rôle américain de gendarme du monde, et à l'international, le déclin relatif de la puissance américaine dans sa capacité d'influence. Alors, spécificité du moment actuel ou révolution Trump ?
Alors, je crois que le premier point qu'il faut toujours souligner quand même, même si on est habitué, voire anesthésié, c'est le caractère quand même assez inédit de Trump, sa personnalité, son utilisation des réseaux sociaux et de Twitter en particulier, et surtout le fait qu'il ne respecte absolument aucune norme, que ce soit sur le plan du comportement présidentiel, son comportement vis-à-vis de ses adversaires, etc. Et aussi, certains courants d'idées qu'il relaie à la Maison Blanche, et en particulier, alors j'ai évoqué Twitter, on le voit très bien quand il retweet tout simplement des choses qui viennent de l'alt-right et de cet espace-là. Et ça, c'est quand même quelque chose de très nouveau. Mais au-delà, effectivement, Trump représente une forme de double tournant. Effectivement, sur le plan intérieur, on a vraiment une rupture, c'est-à-dire que la population américaine ne croit plus que la politique étrangère est bonne pour ses intérêts, pour les classes moyennes et populaires américaines. À l'international, on a ce phénomène d'un déclin relatif de la puissance américaine, et Trump exprime aussi ce constat que l'ordre international, en fait, que les États-Unis ont construit après 45, ne bénéficie plus aux intérêts américains. Et le fait est que Barack Obama avait déjà été élu sur une critique de la politique étrangère, mais Trump a réussi bien plus qu'Obama à élargir ce débat aux États-Unis sur le rapport américain au monde, sur la politique étrangère américaine, ses objectifs, ses moyens, ses alliés et le système international dans lequel elle se déploie.
Alors, rapport américain au monde. Pierre Mélandry, singularité de la politique étrangère de Donald Trump qui se retrouve particulièrement au Moyen-Orient. Vous citez dans l'article de ce dossier de questions internationales, États-Unis cavalier seul, vous citez le quotidien britannique The Guardian en reprenant le terme de confusion pour qualifier la politique étrangère de Donald Trump.
Ah oui, je crois que c'est un mot qui revient un petit peu partout. Mais peut-être je voudrais revenir sur ce retour de Trump à une politique très différente de ses prédécesseurs, en disant qu'en fait, ça traduit une sorte de fin de cycle. Lorsqu'il est arrivé, Foreign Affairs a titré « Present at the Destruction, Trump in Practice ». Et c'était en fait un mot inspiré des mémoires de Dina Chesson qui s'intitulait « Present at the Creation », lorsque les États-Unis ont instaurer le système mondial qui a prévalu, en gros, jusqu'à nos jours, alors même qu'ils étaient dans une position de force écrasante et que le siècle américain était en train de s'épanouir. Or, ce qu'on voit avec Trump, America First, c'est un retour à une politique américaine, au fond, assez traditionnelle antérieurement, évidemment, avec le piquant de ce que sont les tweets tout à fait provocateur. Si vous voulez, juste un texte qui quand même est éclairant. Le discours d'inauguration de Harding en 1921. L'Amérique construite sur les fondations posées par ses pères inspirés ne peut appartenir à aucune alliance militaire permanente. Elle ne peut prendre aucun engagement politique ni assumer des obligations économiques de nature à soumettre nos décisions à toute autre chose que notre propre autorité. Un super gouvernement mondial est contraire à tout ce que nous chérissons. Ce n'est pas de la suspicion envers les autres, c'est une adhésion patriotique aux choses qui nous ont fait ce que nous sommes. Je veux dire qu'on a manifestement, avec Trump, l'aveu, comme le disait très bien Maya, que le système mis en place après la Deuxième Guerre mondiale ne correspond plus aux intérêts américains et qu'il va falloir se ressourcer en quelque sorte pour défendre cet intérêt. Et effectivement, Obama, lui, avait cherché à le faire en modelant le système, en essayant de le corriger, de lui donner une nouvelle vie à travers un certain nombre de réformes. Ce que Trump a constaté, c'est que à ses yeux, cela ne fonctionnait pas. Le problème, c'est qu'il n'a rien de très sérieux à proposer à la place, hormis des réactions impulsives ou un recours permanent à l'unilatéralisme, au nationalisme, aux positions de force qui désarçonnent tout le monde et qui aboutissent à la situation chaotique où nous sommes aujourd'hui.
Alors finalement, ce que l'on entend beaucoup, mais c'est intéressant peut-être de se poser sur cet aspect des choses, est-ce qu'il y a rupture véritablement avec Donald Trump ? Pas tant que ça, Maya Kandel, finalement. Cette politique étrangère de Donald Trump, elle vient dans une certaine continuité par rapport à ce que Barack Obama... C'est pas vrai partout. On peut reparler de l'Iran, avec l'accord JCPOA sur le nucléaire iranien signé en juillet 2015, mais tout de même.
Mais je pense qu'il y a, sur ce point, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est très souvent évoqué, il y a une continuité dans le constat, mais il y a une rupture dans la mise en œuvre. Je crois que vraiment, Pierre Mélandré vient de le dire, effectivement, Obama aussi faisait le constat qu'il y avait une évolution du rapport de puissance dans le monde, qui était défavorable aux États-Unis. Il essayait de réorienter les priorités avec, en particulier, je pense que Trump comme Obama ont ce regard, comme point de départ, ce regard très critique, voire ce rejet de la politique de Bush. Et George W. Bush, fils donc, des guerres désastreuses, de l'invasion irakienne, l'opération d'Afghanistan qui a évolué, qui est complètement sortie de son intention de départ. Et en parallèle, le constat de la montée en puissance de la Chine et plus globalement de l'Asie-Pacifique dans le rapport de puissance mondiale. Mais en revanche, même si donc ce constat est similaire... Les conclusions qu'ils en tirent en termes de ce que doit faire la politique étrangère américaine et des moyens qu'elle doit utiliser, là, on a vraiment une rupture. Et la rupture principale, c'est, je pense, dans les moyens quand même, hein, le multilatéralisme privilégié par Obama, qui entend vraiment gérer ce déclin relatif américain avec les alliés, tout particulièrement. Alors que Trump, lui, part vraiment du principe, vous citiez le président Harding, mais c'est tout à fait... Enfin, Trump est un retour à ça. On a beaucoup évoqué le président Jackson, c'est intéressant par rapport au nationalisme, qui est très important par rapport à ce retour d'un nationalisme ethnoculturel américain. Mais en revanche, sur le plan du rapport au monde, effectivement, c'est les années 20, les années 30, le fait que les alliés sont considérés comme un poids. Il a répété plusieurs fois que l'OTAN est obsolète. Bon, le problème qu'on a quand on regarde la politique étrangère de Trump, c'est que on a d'un côté ce président absolument inédit qui pulvérise toutes les normes, qui utilise Twitter de manière impulsive. Or, la parole présidentielle, même via Twitter, est la politique étrangère américaine. Et à côté, on a des documents stratégiques, bon, les équipes sont pas complètes et puis très renouvelées très rapidement, mais disons, même si on se réfère juste aux documents stratégiques, on a beaucoup plus de continuité et en particulier de continuité avec Obama. Donc on a toujours ce problème d'analyse quand on regarde cette politique étrangère qui est en fait complètement schizophrène à partir du moment où le président Trump s'occupe de ses dossiers. On va avoir beaucoup plus de continuité sur les dossiers qui sont pas parasités, entre guillemets, par des tweets de Trump.
Vous écoutez RFI. Géopolitique.
Alors, si on voulait simplifier, Pierre Mélandry, est-ce qu'on peut dire finalement, Maya Kandel évoquait le contrepoids de Trump par rapport à la politique de George W. Bush. Bon, c'est vrai qu'il faut se rappeler, 2003, on part en Afghanistan, il y a l'Irak, un argent colossal qui est dépensée par les États-Unis. Et pendant ce temps, la Chine est sur sa fusée de lancement. Elle est déjà partie très loin. Et on en est aujourd'hui, avec Trump, à une sorte de bilan. Voilà 20 ans qu'on fait la guerre. Voilà 20 ans qu'on dépense beaucoup d'argent pour des résultats, somme toute, très, très limités. Lutte contre le terrorisme, avec, on en parlera, ce qui se passe dans la partie nord-est de la Syrie. Finalement, c'est ce constat-là que fait Trump aujourd'hui.
Ah oui, d'ailleurs, les textes fondateurs de la présidence, rédigés d'ailleurs en partie par l'establishment, constatent l'échec de cette politique et évidemment expliquent qu'il faut repenser, même si ce n'est pas fatalement toujours dans le sens où veut aller Trump. Non, je crois que il faut se rappeler que la Chine parlait d'ascension pacifique et ce n'était pas un mot totalement innocent. C'était par opposition aux guerres menées au même moment, dans les débuts des années 2000, par les États-Unis. Et tout d'un coup, effectivement, on s'est aperçu que la politique à l'endroit de la Chine, mais aussi à l'endroit de bien d'autres problèmes, avait été quelque peu aveugle. Paul Kennedy avait écrit un article pour expliquer en quoi le 11 septembre avait faussé d'une certaine façon la perception américaine du monde, les empêchant de voir les principaux défis qui étaient en train d'émerger. Alors pour ce qui est de la Chine, évidemment, il faut remonter aux années Clinton, où Clinton avait fait le pari de l'intégration. Clinton s'était battu, quitte à laisser accomplir un certain nombre de sacrifices par ailleurs, pour l'entrée de la Chine dans l'OMC. Or, cette entrée dans l'OMC, on le voit par les chiffres, correspond à une accélération de ce qui était déjà une belle croissance sur la scène internationale de la Chine. Et la crise de 2007-2008, évidemment, a déjà renversé largement la donne. On commence à se rendre compte aux États-Unis que la Chine est un défi. Obama va accomplir un pivot. Et si vous voulez, si on veut une continuité, là, effectivement, le pivot d'Obama, c'est bien la prise en compte de l'émergence face aux États-Unis d'une puissance qui, peu à peu, va s'affirmer à la fois comme une puissance révisionniste, donc remettant en cause l'ordre même sur lequel repose le leadership américain, et aussi une concurrente économique et technologique. Et là, je crois que la technologie est un aspect essentiel, parce que les Chinois se sont bien rendus compte que c'est de cela que dépendaient les rapports de force. Ils en sont très conscients, et les Américains le sont tout autant, et ce, d'autant plus que les technologies actuelles sont très souvent à usage dual. Mais pour revenir à ce qui était dit tout à l'heure, simplement d'un mot, continuité, rupture, sur le Moyen-Orient, c'est éclatant. La continuité est aveuglante, dans la mesure où Obama parlait de Gotham à propos du Moyen-Orient. Un de ses conseillers expliquait qu'en Irak, nous avons renversé un gouvernement et procédé à une occupation et tout a tourné à l'enfer. En Libye, nous avons renversé un gouvernement, mais n'avons pas procédé à une occupation et tout a tourné à l'enfer. En Syrie, nous avons pas renversé un gouvernement et pas procédé à une occupation et tout a tourné à l'enfer. C'est cela qu'englutit le Moyen-Orient. Tout y tourne à l'enfer. Et vous avez, de ce point de vue-là, une corrélation et, comment dirais-je, recoupement sur le diagnostic. En revanche, la réponse est totalement différente. Obama considère que les États-Unis doivent se retirer progressivement du Moyen-Orient, mais à condition d'y établir un ordre alternatif. C'est pourquoi il tenait tellement grande concertation de Riyad à ce que l'Arabie Saoudite d'un côté et l'Iran de l'autre s'entendent pour se partager, comme il le disait, la région. Alors que Trump, lui, va faire un calcul totalement inverse en décidant de choisir un camp, de s'aligner sur ce qu'il espère avec beaucoup d'illusions pouvoir devenir très vite une alliance stratégique entre Israël et l'Arabie Saoudite, et on voit où nous sommes en train d'aller en ce moment et à quel point, évidemment, les espoirs qu'il avait nourris étaient quelque peu illusoire.
Alors, les conséquences de cette décision américaine de retirer les forces spéciales du nord-est de la Syrie, Maya Kandel, elles sont importantes. Alors, bien sûr, c'est pas tout de suite qu'on peut les voir, ces conséquences. En tout cas, on peut être tenté d'imaginer Vladimir Poutine être tenté de tester l'engagement américain à défendre les pays baltes, idem pour l'Afghanistan. Et puis, bien sûr, il y a Taïwan. Alors, on parlera beaucoup de la Chine, de Taïwan dans l'émission de demain, mais tout de même, côté américain, voilà, ce qu'on peut imaginer, c'est des conséquences importantes, et à commencer peut-être aussi par la rupture de la confiance vis-à-vis de l'Amérique de Donald Trump, peut-être aussi absence de sérieux, en tout cas décision abrupte.
Oui, tout à fait. Même je dirais que, en fait, depuis le tweet de Trump, on a eu une série de conséquences extrêmement rapides. En fait, on a eu un bouleversement stratégique, alors qu'il pouvait tout à fait être anticipé, qui avait été anticipé en cas de retrait total des forces américaines, ce que Trump, d'ailleurs, rappelons-le, avait déjà annoncé en décembre 2018. Ça avait conduit à la démission de son secrétaire à la défense, Jim Mattis. Donc, on a vu sur le terrain très rapidement la Turquie finalement obtenir ce qu'elle réclame depuis très longtemps, c'est-à-dire une zone tampon et une forme de profondeur stratégique dans le territoire syrien sans les Kurdes. On a vu les Russes, Vladimir Poutine, venir remplir immédiatement, mais vraiment en matière de quelques heures, et on l'a vu d'ailleurs sur les réseaux sociaux, des vidéos de soldats russes investissant la base américaine où il y avait encore des canettes de coca à moitié ouvertes et des livres de chevet. Enfin, c'était très frappant visuellement. Et puis, on voit aussi Donald Trump tout à coup dire ce qu'il avait dit beaucoup au sujet de l'Irak, que finalement, on va peut-être laisser quelques forces américaines pour protéger le pétrole. Bon. Mais au-delà, vous parliez de la confiance vis-à-vis des États-Unis. Bon, ça, je pense que la question de la parole des États-Unis, la confiance est très entamée depuis l'arrivée de Trump en raison de ses tweets impulsifs, mais ça va même au-delà de ça, puisque, en fait, quand Trump est arrivé au pouvoir, on l'a vu détruire de manière assez systématique l'héritage de Barack Obama en politique étrangère. Donc, on a cette question plus large, en constatant, chacun peut faire le constat de la polarisation extrême de la vie politique américaine, qui a gagné, y compris la politique étrangère, et donc on se retrouve aussi face à cette question. Est-ce que chaque nouveau président d'un bord politique opposé va d'abord commencer par détruire ce qu'a fait son prédécesseur ? Ça, c'est une vraie question aussi pour les partenaires des États-Unis. Parce que quand même, il faut bien voir aussi que la décision de Trump, alors elle est très critiquée à Washington. On a vu se lever les parlementaires, des anciens militaires, tous les médias principaux, etc. Mais on a aussi tout un secteur de la population qui approuve cette décision, qui est parfaitement d'accord avec le fait que les États-Unis doivent se retirer du Moyen-Orient. Et ça aussi, il faut en tenir compte. C'est des points de vue qui sont relayés en particulier sur Fox News, par exemple par Tucker Carlson, un animateur très influent, le deuxième show le plus regardé aux États-Unis. Et lui exprime ce que je pense toute une partie de la population américaine, qui est qu'effectivement, ce n'est pas la guerre des États-Unis, leur intérêt national n'est pas en jeu, il est normal qu'ils s'en aillent.
Pierre Mélandry.
Oui, alors je souscris tout à fait à ce que dit Maya, parce qu'au fond, le problème n'est pas tant le lâchage d'alliés, les Américains l'ont fait souvent, comme toutes les grandes puissances. On a eu les Sud-Vietnamiens, on avait déjà eu les Hongrois, d'une certaine façon, dans les années 50. On a eu la baie des cochons. Enfin, on pourrait, et les Kurdes, lâchés par le Shah Kissinger, ensuite par... surtout par George Bush père, effectivement, qui les appelle à la révolte pour ensuite laisser des hélicoptères entre les mains de Saddam Hussein qui va pouvoir les massacrer. Donc, les grandes puissances sont coutumières de ces choses et malgré tout, quand on a besoin d'elles, on se tourne vers elles. Non, le vrai problème, ce que dit Maya, c'est le reste. C'est-à-dire que cela vient s'ajouter à la remise en cause d'engagements solennels des États-Unis, traité de Paris sur le climat, accord nucléaire avec l'Iran, ça commence à faire beaucoup et à donner l'impression que on ne peut absolument plus compter sur quoi que ce soit, que tout est remis en cause. J'ajouterais que ça va à l'encontre de la stratégie américaine officielle. Le retrait, c'est que en principe, elle est là pour contrer l'Iran. Mais je compterais quand même sur une nuance. Au même moment où on retire, où on parle de retirer en tout cas les troupes de Syrie, on en envoie des milliers de plus en Arabie Saoudite. Et peut-être faut-il faire dans cette affaire moyen-orientale une différence entre la politique américaine dans le Nord, où on semble laisser la main à la Russie et le sud pétrolier où, malgré tout, les États-Unis considèrent que les enjeux sont d'une autre importance.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Pierre Mélandry et Maya Candel après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique pour cette édition réalisée en partenariat avec la revue Questions internationales pour son numéro consacré aux États-Unis sous le titre États-Unis, cavalier seul. Nous retrouvons nos invités. Maya Candel, chercheuse associée à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle et auteur de Les États-Unis et le monde aux éditions Perrin. Pierre Mélandry, historien, ancien professeur des universités à Sciences Po Paris et auteur de Le siècle américain, une histoire aux éditions Perrin. Nous avons parlé de politique étrangère dans la première partie de l'émission. J'aimerais comprendre ce qui se passe au niveau intérieur. On a vu l'annonce faite par Donald Trump de départ des troupes américaines du nord-est de la Syrie ne pas être approuvée par les républicains. Est-ce que, d'après vous, cela peut coûter cher à Trump, même si, comme vous le disiez dans la première partie de l'émission, Maya Candel, c'est une décision finalement plutôt généralement approuvée par la population. Il n'empêche qu'au niveau parlementaire, ça n'est pas le cas.
Oui, alors ce qui est intéressant, là, effectivement, on a vu la majorité des sénateurs, en tout cas, s'élever contre cette décision. Il y a très peu de voix qui la défendent. Mais ce qui est intéressant, c'est la conjonction, et qui est peut-être pas complètement un hasard d'ailleurs, c'est la conjonction avec le lancement de ces enquêtes tout azimut par la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, donc procédure de destitution, autour d'une question de politique étrangère, en fait, déclenchée par cette affaire ukrainienne, c'est-à-dire le coup de fil entre Trump et le président Zelensky, président ukrainien, qui semblait montrer que Trump conditionnait finalement la fourniture d'assistance militaire à l'Ukraine au fait que l'Ukraine enquête sur son opposant politique principal, pour l'instant en tout cas, Joe Biden. Sans rentrer dans les détails, parce que c'est extrêmement complexe, ce qu'on sait de cette enquête, c'est que effectivement, il y a deux politiques étrangères avec Trump. Il y a une politique officielle avec des documents stratégiques et un certain nombre de personnels dans les institutions qui essayent de la mener. Et puis en parallèle, il y a un président qui fait sa propre politique étrangère à coup de tweets, ce qu'on a vu sur la Syrie, mais aussi avec des chaînes parallèles. En la matière, c'était à travers son avocat Giuliani, pour des raisons strictement personnelles de politique électorale, en fait, et c'est ce qui a déclenché la procédure. Et c'est là que ça devient un peu intéressant, puisque la procédure de destitution, c'est quelque chose qui se déroule en deux temps. Donc la Chambre des représentants vote l'accusation, le Sénat joue un rôle de jury et tranche. Il doit trancher aux deux tiers, donc Trump a besoin du soutien d'un certain nombre de sénateurs républicains. Donc c'est là que cette conjonction d'événements devient intéressante, puisque Trump ne peut pas se permettre de perdre complètement ce soutien. Or, on voit ces sénateurs qui ont accepté vraiment énormément de choses depuis 3 ans, le lâchage des Kurdes, ça les embête quand même, et donc ils essayent de peser sur le président. Bon, après, Trump a le soutien de plus de 80%, voire parfois 90% des électeurs républicains. Ces électeurs républicains sont les mêmes qui élisent les sénateurs, et donc tant que Trump bénéficiera d'un tel soutien auprès des électeurs, les sénateurs n'auront pas intérêt à le lâcher.
Alors Pierre Mélandry, est-ce que la procédure de destitution de Donald Trump vous semble pouvoir aboutir?
Tout le monde s'interroge là-dessus. On a vu comment Madame Pelosi n'a cessé d'osciller, étant longtemps plutôt réticente, ayant peur que ça fasse à la limite le jeu de Trump, qui adore se poser en victime d'un establishment contre lequel il s'érige, alors que lui-même n'appartient pas très exactement à la classe des Américains moyens. Je dirais que une des clés pourrait être Fox News. Parce qu'au fond, la vraie question pour les sénateur républicain, c'est la réélection, éventuellement. Et puis, sentir s'ils sont toujours populaires auprès de leur base. Alors, est-ce que Fox News, qui jusqu'ici a longtemps défendu Trump, continuera à le faire? Ou est-ce que, à un moment, on verra Fox News prendre un tournant? Ça pourrait être dangereux pour Trump. Parce qu'au fond, Trump tient sa base de façon très solide, entre 35 et 41%, ce qui est énorme en termes républicains, car c'est une écrasante majorité. Tant qu'il la tient, les sénateurs républicains hésiteront à le lâcher. Donc, je suis encore assez sceptique, mais je voudrais juste ajouter une chose, c'est effectivement là sur une continuité, évidemment de façon très différente, entre Obama et Trump. C'est le problème de l'establishment qui, lui, est extraordinairement enraciné dans le système qui a été créé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et qui est aussi souvent persuadé que l'Amérique doit faire régner son ordre par des interventions. Et de ce point de vue-là, déjà, Obama et ses conseillers se plaignaient du poids que le blob, comme il disait, c'est-à-dire les médias, les classiques de politique étrangère, exerçaient sur la politique américaine. Et c'est tout le problème de la relation entre politique extérieure et politique intérieure, dans quelle mesure est-ce que l'opinion souhaite à la fois le retrait des États-Unis, ça c'est sûr, il y a une large idée que ça coûte trop cher, que les priorités sont intérieures, qu'il faut faire du nation building at home, mais dans quelle mesure accepte-t-elle que ceci s'accompagne d'un recul de l'influence américaine ? Et c'est là tout le problème, parce qu'au fond, très longtemps, influence américaine et prospérité nationale ont été liées. Désormais, ça ne paraît plus le cas. Le rêve américain paraît désenchanté. La politique extérieure semble être un fardeau qui pèse sur l'Américain moyen. Mais il reste quand même la crainte de ce que pourrait devenir un monde chaotique, d'où les États-Unis se retireraient. Et à ce moment-là, quelles en seraient les conséquences pour les Américains ?
Alors, rêve américain désenchanté, Maya Kandel, Pierre Mélandry évoquait la conjoncture économique, elle est plutôt favorable jusqu'à présent à Donald Trump. Il n'empêche, et ça, je dois dire qu'élection après élection, ce qu'on voit, c'est tout de même une société américaine très fracturée, en proie de violentes tensions raciales, il y a des inégalités sociales criantes. Il y a aussi beaucoup de chantiers dans le nation building. Il y a aussi les infrastructures américaines qui sont de plus en plus fatiguées. C'est probablement un euphémisme. En tout cas, beaucoup de priorités sur le plan intérieur. Mais j'ai posé la question à Pierre Mélandry, je vous la pose à vous. La procédure de destitution, sur laquelle Nancy Pelosi a beaucoup hésité avant de se lancer.
Maya oui, Kandel. Nancy Pelosi, elle est responsable de sa majorité à la Chambre. Et cette majorité, elle a été acquise en particulier par l'élection de démocrates dans les suburbs, dans un certain nombre d'États comme le Texas, où en fait, il s'agit de démocrates modérés. Mmh. Et donc, elle voulait protéger sa majorité. Et elle réfléchit comme ça. Après, sur la procédure de destitution, indépendamment du fait qu'elle aille jusqu'à son terme en destituant Trump, ce à quoi je crois assez peu aussi, elle a son importance à partir du moment où les auditions deviendront un peu plus publiques et où on aura au Sénat des échanges qui seront publics. Elle a son importance aussi pour éclairer tout simplement le vote des Américains dans un an aujourd'hui. Donc elle reste peut-être plus importante par rapport à ça. Mmh. Mais au-delà, vous évoquiez une société fracturée, divisée, polarisée. Je crois qu'effectivement, c'est une dimension essentielle aussi pour comprendre la adhésion d'une grande partie de la population américaine à Trump. Trump disait qu'il pouvait se mettre au milieu de la 5e avenue et tuer quelqu'un et que ça changerait rien. Bon, indépendamment de ce propos, dans l'adhésion à Trump, il y a quelque chose qui est parfois proche du phénomène sectaire. Une adhésion qu'on peut comprendre seulement si on revient à l'idée de guerre culturelle américaine, quelque chose qui dure depuis plusieurs décennies. Et il faut bien voir que pour beaucoup de gens, Trump, c'est quelqu'un qui est instrumentalisé pour changer la société en renouvelant en particulier les juges à la Cour suprême, oui, mais aussi dans toute une série de cours inférieures. Et là-dessus, le leader républicain du Sénat, McConnell, a livré ce qui était attendu de lui, c'est-à-dire un renouvellement de tous ces juges. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que pour tout ce secteur de la population, ce qui est en jeu, c'est la société américaine. Et pour eux, elle a changé sous l'influence de la Cour suprême, à travers une série de décisions sur l'avortement. Elle est extrêmement conservatrice et pour ces gens-là, c'est ça qui est important avec Trump.
Alors, ce que j'aimerais comprendre, finalement, ces auditions à venir dans le cadre de cette procédure de destitution, est-ce que, d'après vous, elles peuvent aider ou au contraire être contre-productives pour les démocrates ?
Tout sera une question de communication. Qui arrivera à donner sa version dominante du débat ? Or, Trump est capable, par un certain nombre de manœuvres, de renverser des situations. Et véritablement, je crois que ça va être une guerre de communication. Mais je voudrais peut-être revenir sur justement ce qui fait la force de Trump, c'est qu'il était profondément ancré dans l'histoire américaine, d'une certaine façon. Le culte du narcissisme, qui avait été célébré par Christopher Lash, les années 70. Ensuite, vous avez le culte de la cupidité, les années Reagan. C'est l'homme, c'est un des Américains les plus célèbres. Ensuite, c'est quand même un homme qui a compris la puissance, précisément, des médias de communication. Et ensuite, il a su utiliser Twitter. Et surtout, alors là, je reviens à ce que disait Maya, il a su exploiter de façon tout à fait fulgurante le désenchantement de la classe moyenne américaine et qui de plus reproche à la gauche de les avoir considérés comme des privilégiés et d'avoir plutôt voulu favoriser l'ascension des minorités. Et c'est cela qui fait la force de Trump de façon finalement assez étonnante, parce que quand on regarde le bilan économique, il n'a pas fait grand-chose pour les gens qui le soutiennent si ardemment. Et c'est pourquoi peut-être aussi les républicains, tout en ne l'aimant pas, en ont peur et le tolèrent, c'est qu'il a fait une politique économique très traditionnellement républicaine. Elle est fondée sur la baisse de la fiscalité essentiellement de manière écrasante pour les plus riches et elle est fondée sur la dérégulation. Inversement, justement, vous parliez d'infrastructure. D'ailleurs, les démocrates doivent être enchantés de ce qu'il n'ait pas voulu aller dans le sens de l'infrastructure, parce que s'il avait donné une dimension plus économique à son populisme, ses chiffres de popularité seraient peut-être nettement plus élevés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Mais là, pour revenir à cela, on va bien voir au moment de l'élection si on aura eu entre-temps un impeachment, si celui-ci aura ou non abouti au procès au Sénat, ou si au fond James Comey, l'ancien directeur du FBI, n'avait pas raison de dire qu'en fait il valait mieux remettre aux électeurs la responsabilité du jugement sur la présidence Trump qu'une fois de plus à une poignée d'élus qui ne sont pas toujours considérés comme pleinement représentatifs de la population.
Il nous reste 12 mois avant l'élection présidentielle, Maya Kandel, débat télévisé, grand meeting, petit meeting, en tout cas tout cela est vraiment très lancé. Côté démocrate, Joe Biden, Bernie Sanders et surtout peut-être Elizabeth Warren.
En fait, franchement, on n'en sait rien finalement à ce stade. Il faut se souvenir d'ailleurs qu'à ce stade, en 2015, la candidature de Trump apparaissait comme une vaste blague. Si on revient au cycle encore antérieur, Obama était un challenger qui avait assez peu de chance. Voilà, donc il est encore très tôt. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que alors Warren, c'est effectivement cette candidate qui a un plan pour tout, qui est très organisée, très préparée. Mais en termes de l'électorat des primaires démocrates, elle est concurrencée par Bernie Sanders, qu'on a cru un temps allait peut-être se retirer, et puis en fait il semble revenir. Et en plus, il est endossé par la jeune garde flamboyante Alexandria Ocasio-Cortez et ses autres femmes au Congrès, le squad comme Trump les appelait. Donc on a cette concurrence sur les voix plus à gauche. Joe Biden, qui semblait être le candidat plus susceptible de gagner parce que aussi il a les voix afro-américaines, ce qui est un problème pour Warren à l'inverse. Voilà, mais là il est quand même touché par l'affaire ukrainienne puisque ça met en cause son fils et avec le brouillage de communication, effectivement les gens savent plus très bien qui a raison, qui a tort. Bref, c'est difficile à dire parce que c'est encore un peu tôt. On a aussi Pete Buttigieg qui est le jeune maire d'Indianapolis. Donc, enfin, il y a encore beaucoup de candidats. C'est encore très difficile à dire. Et en réalité, ce qu'on voit, c'est que ça dépend aussi de l'analyse qu'on fait de l'élection 2016. Et ça, les démocrates sont pas encore vraiment d'accord entre eux, ce qui peut paraître surprenant. Mais 4 ans plus tard, ils n'ont pas fait de verdict.
Pierre Mélandry.
Oui, faut-il mobiliser le Midwest, les démocrates d'antan qui était passé aux républicains et que l'on sent potentiellement pouvoir revenir vers le parti, ou la Sun Belt et essentiellement les minorités qui, évidemment, ne veulent plus de Trump. Est-ce qu'il faut un candidat qui soit un warring candidate, qui mène le combat, ou au contraire un candidat qui soit un healing candidate, qui cherche à réparer les blessures que connaît l'Amérique et, comme l'avait fait Obama, tenter de réunifier le pays? Ma dernière chose que je dirais, c'est qu'au fond, si on a une référence historique, c'est peut-être la fin 19e, où était en train de monter un mouvement populiste aux États-Unis, qui finalement a abouti à un mouvement progressiste. Alors, Madame Warren semble de temps en temps se réclamer d'un Theodore Roosevelt. Peut-être va-t-on vers ce type de réponse, mais je crois absolument comme Maya que rien n'est joué à l'intérieur du camp démocrate et que la vraie question pour les démocrates, c'est s'assurer que l'on battra Trump. Je crois que ça va être ça le critère, convaincre les électeurs démocrates lors des primaires que l'on est en mesure moins de leur faire plaisir de dire ce qu'ils veulent entendre que de débarrasser le pays d'un homme que les démocrates manifestement ne peuvent plus supporter.
Alors, en tout cas, elle promet cette campagne d'être plutôt terrible. Trump peut être très méchant et il va être très méchant. Maya Gandel.
Oui, on a vu d'ailleurs, c'était la semaine dernière, je crois, ça va tellement vite quand c'est un scandale chasse l'autre, mais on a vu Trump relayer cette vidéo où on le voit assassiner au couteau et aux armes à feu une assemblée de journalistes. Et ça, c'est typiquement du genre de choses qui proviennent de ces forums de l'alt-right que Trump relaie sans état d'âme et qui sont une manière aussi pour lui de faire appel à cet électorat qu'il a su mobiliser, qui était un électorat qui ne votait pas forcément aux élections précédentes et qui a beaucoup pesé dans sa victoire. Et puis bien sûr, au-delà de cette capacité de mobilisation, ça contribue à polariser le débat politique et à le rendre plus violent, là, très clairement. Hein, c'est une vraie violence au sens premier du terme. Donc oui, cette campagne va être assez terrible. Trump adore se poser en victime de l'establishment. Donc toute chose qui vient l'attaquer là-dessus, en fait, conforte son sentiment d'être et le sentiment de ses électeurs d'être contre le système, que le système veut les écraser, les tenir à l'écart. Oui, on va avoir une campagne extrêmement violente, d'autant plus que face à ça, côté démocrate, effectivement, on voit beaucoup de démocrates pensent finalement que l'erreur de 2016 était justement de ne pas aller sur le même terrain que Trump. Et donc, j'ai l'impression qu'ils vont aller à sa rencontre sur ce terrain très vindicatif, faisant feu de tout bois et en fait allant eux aussi vers les extrêmes plutôt que vers le centre.
Donc une campagne qui promet d'être assez violente, Pierre Mélandry, et de laquelle la politique étrangère sera plutôt exclue.
Oh, comme souvent, hein, les politiques étrangères n'est pas au cœur de la plupart des campagnes, sauf lorsqu'il y a des guerres qui coûtent directement. Évidemment, Vietnam était au cœur des campagnes américaines, mais tant il s'agit de diplomatie traditionnelle ou même de grande gestion géopolitique, sauf peut-être la Chine, mais là-dessus, c'est un des rares points d'accord bipartisan entre Monsieur Sanders, Madame Warren et Trump. Il y a très peu de différences. Il y en a peut-être un peu plus à l'intérieur des démocrates entre un clan qui veut finalement maintenir l'ordre économique international tel qu'il existe avec quelques aménagements, Biden par exemple, et puis ceux qui, comme Madame Warren ou Bernie Sanders, n'hésitent pas à dire que les États-Unis doivent revoir un certain nombre de traités, que l'ordre international n'a pas toujours été favorable à la population américaine. Mais je crois que surtout pour Trump, qui finalement a très peu de réalisations intérieures à sa disposition, qui n'est pas sûr que l'économie, sinon n'entre pas en récession, du moins ne connaisse pas un ralentissement dans l'année à venir, eh bien, la seule solution, ça va être une campagne extraordinairement négative, et en particulier jouer sur la fibre raciste, sur la fibre religieuse également. Et jusqu'ici, je me rappelle avoir lu un article où on disait, au fond, maintenant, pour les républicains, si on est démocrate, on est trois choses à la fois, ou au moins une de celles-ci, antisémite, tueur d'enfants, les questions d'avortement, ou on est socialiste. Mais manifestement, l'idée va être de persuader les électeurs de ne pas voter pour l'autre et de voter pour soi, pour éviter d'avoir l'autre. Et ça, c'est évidemment pas ce qu'il y a de plus édifiant pour une démocratie.
Une campagne dont nous aurons l'occasion de reparler, bien sûr. Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Maya Candel, je rappelle que vous êtes chercheuse associée à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle et auteure de Les États-Unis et le Monde, paru aux éditions Perrin. Pierre Mélandry, historien, ancien professeur des universités à Sciences Po Paris et auteur de Le siècle américain, une histoire aux éditions Perrin également. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Demain, nous parlerons justement de la Chine. À demain.